Harriet Taylor Mill. Son nom ne vous dit rien ? C'est normal. Harriet Taylor Mill connaît la malédiction d'être une femme de, en l'occurrence, la femme de John Stuart Mill, philosophe anglais du 19e siècle, connu pour ses écrits sur le libéralisme et l'assujettissement des femmes. Et sur le sujet, comme vous vous en doutez, il a fortement été inspiré, et il le dit lui-même, par Harriet Taylor elle-même. Mais comment mesurer cette influence et même cette autorité dans une époque d'inégalité des sexes, quand le rôle des femmes était d'être une épouse et une mère, et quand on savait si peu de choses de la vie d'une femme ? Toute cette semaine, on mène l'enquête. Aujourd'hui, premier épisode, qui êtes-vous, Harriet Taylor Mill ?
Je ne pense pas qu'une correction soit nécessaire.
Voyons, Béatrix, quel jeune homme va vouloir épouser une demoiselle qui a de la boue plein le visage ?
Je ne me marierai pas, alors quelle importance ?
Si, bien sûr, tu vas te marier. Toutes les filles se marient. Je l'ai fait, ta grand-mère aussi. Et tu verras qu'un jour, même Fiona se mariera.
Pas moi, en tout cas.
Qui te donnera son amour ?
Mon art et mes animaux. Leur amour est amplement suffisant.
Pour une jeune fille de 11 ans, peut-être. Nous verrons si tu raisonnes de la même façon à 18. J'ai dessiné maman quand nous nous sommes rencontrés. Elle m'a épousée. Et dites-moi, Fiona, la boue ne part-elle pas au lavage ? Bertram, viens avec moi. Viens.
Bonjour Françoise Orasi.
Bonjour.
Vous êtes professeure de civilisation britannique à l'université Lumière Lyon 2 et on vous doit ce livre, John Stuart Mill et Harriet Taylor écrit sur l'égalité des sexes. Ce sont des textes que vous avez traduits et présentés et c'est paru aux éditions ENS Collection Les Fondamentaux du Féminisme. Est-ce qu'on peut dire que d'Harriet Taylor, c'est la seule chose publiée en France qu'on ait sous la main ?
Les traductions, et oui, en France, autant que je sache, sont les seules qui ont été traduites pour le moment, oui.
Alors comment commencer cette semaine sur Harriet Taylor en ayant en fait si peu de matière et même vous, de votre côté, comment vous pouvez nous la présenter en ayant en fait si peu peut-être de traces d'elle ?
Je risque de vous décevoir parce que pour moi, Harriet Taylor Mill, ça reste un gigantesque mystère. Alors pas uniquement pour moi, mais je pense... pour l'ensemble de la communauté scientifique. C'est quelqu'un sur lequel il n'y a encore pas véritablement de consensus quant à son rôle exact et on a encore du mal, me semble-t-il, à prendre la mesure de sa pensée. Je crois que c'est... Vous parliez tout à l'heure dans votre introduction de la malédiction d'être femme d'eux, mais si cette malédiction est généralement le cas à l'époque... C'est peut-être le contraire qui a eu lieu ici. On pourrait peut-être dire que Harriet Taylor Mill a eu la chance de rencontrer le seul philosophe qui, jusqu'au XXe siècle, s'est fait le défenseur des femmes dans ses ouvrages de philosophie générale. Et c'est peut-être ça qui explique l'intensité de la passion que Taylor Mill ressent pour Mill, et c'est peut-être ça aussi qui fait que sa pensée nous est parvenue. Parce que sans la défense que Mill prendra de sa femme, défense qui ne sera pas entendue à son époque, on ne saurait pas aujourd'hui qui elle est. Sauf peut-être quelqu'un qui aurait travaillé sur les articles publiés dans le journal unitarien auquel elle contribuait parfois.
Alors, il y a quand même quelques éléments biographiques qu'on peut quand même donner hein, sur Harriet Taylor. Déjà, on peut dire qu'elle est née en 1807 sous le nom de Harriet Hardy, qu'elle épouse d'abord John Taylor en 1826 et que 4 ans plus tard, elle rencontre en 1830 John Stuart Mill, donc philosophe, chez les Unitariens. Vous venez d'ailleurs de citer ce mot, Françoise Orasi. C'est quoi les Unitariens ?
Alors, les Unitariens, c'est un groupe protestant. À l'époque, en Grande-Bretagne, la religion officielle, c'est l'anglicanisme. Mais depuis l'époque de la Réforme, il y a un certain nombre de groupes. On dit en anglais, on parle de secte. Mais évidemment, le terme est difficile à traduire en français, parce que ce n'est pas une secte au sens où on l'entend nous. Mais des dissidents qui varient sur la doctrine chrétiennes et qui sont néanmoins placées dans le protestantisme. Alors, ce qu'il faut voir la particularité des Unitariens, qui sont les héritiers d'un groupe préalable qu'on appelait les Rational Dissenters, c'est qu'ils pense que la pensée individuelle constitue le meilleur vecteur pour comprendre Dieu et la religion. Donc ils encouragent par doctrine leur congrégation à développer leur intellect et ils font partie des rares qui encouragent les femmes à faire de même.
Donc c'est comme ça que Harriet Taylor s'est retrouvée finalement chez les Unitariens, c'est-à-dire qu'il y avait déjà en fait un contexte biographique qui expliquait une sorte d'aspiration à développer son intellect. Est-ce qu'elle venait en fait d'une famille qui déjà permettait en fait cette libération ou en tout cas cet épanouissement intellectuel ?
En tout cas, qui ne l'interdisait pas, qui n'allait pas contre. C'est à l'époque assez fascinant d'ailleurs quand on regarde les premières féministes, celles qui vont finir par donner lieu à ce qu'on a appelé la première vague du féminisme, bon, mais qui commence plutôt en 1850, donc là on est en 1830 sur les événements que vous mentionnez. Quand on regarde cette période, on se rend compte que une majorité des premières féministes ont eu dans leur biographie des événements particuliers qui les ont disposées à ouvrir les yeux sur la condition des femmes. Et très très souvent, ces événements particuliers sont l'appartenance à une religion dissidente, à une forme de religion dissidente qui encourage le développement de l'intellect.
D'où donc l'intérêt d'Harriet Taylor pour ce genre de mouvement. Ça veut dire que avant en fait de rencontrer John Stuart Mill, il y avait déjà en fait une appétence de son côté pour ses idées féministes et pour en tout cas le sujet de la libération des femmes.
Oui, oui, oui. Alors, ce qui est très rigolo, si je peux me permettre, dans la rencontre entre Mill et Taylor Mill, c'est que le dîner auquel ils se rencontrent est organisé justement parce que Harriet Taylor se plaint de s'ennuyer un peu et demande à rencontrer des gens qui pourraient la susciter...
La stimuler d'une certaine manière.
La stimuler, voilà, exactement. Donc elle s'adresse à William Fox, qui est un des dirigeants des Unitariens, pour lui demander d'organiser un repas avec de nouvelles personnes qui pourraient... voilà. Et c'est justement parce qu'elle s'ennuie un peu dans son mariage. Et à ce moment-là, donc, il va y avoir ce fameux repas en 1830, qui est un repas qui va donner lieu à deux scandales absolument terrible pour l'époque. Le premier scandale, c'est la relation qui va se développer entre Harriet et John Stuart. Et puis l'autre scandale, c'est le dirigeant William Fox qui va quitter sa femme pour sa pupille, Eliza Flowers, avec qui il ira s'installer et connaître l'opprobre social.
Et à partir de là, comment se noue cette relation entre John Stuart Mill et Harriet Taylor ? Parce que Harriet Taylor, quand même, était déjà mariée à John Taylor. Donc, comment s'est passée cette relation ? C'est-à-dire qu'est-ce que c'était une relation qui était cachée, qui était assumée, qui justement, en fait, parce qu'assumée, a permis en fait une véritable collaboration intellectuelle ? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors là, c'est ce que Bruce Kinzer appelle un des grands mystères de la biographie de Mill. Et on sait beaucoup de choses, mais exactement, on ne sait pas. Disons que vous avez raison de rappeler qu'elle était mariée. Elle était notamment, à ce moment, au moment où elle rencontre Mill, elle était enceinte de sa fille, Hélène. Hélène qui deviendra elle-même une militante féministe assez connue et qui restera proche de John Stuart Mill jusqu'à la mort de celui-ci. Toujours est-il que, dans un premier temps, ils sont très intéressés l'un par l'autre. Ils commencent à se fréquenter. Alors, dans un premier temps, ils se fréquentent de manière tout à fait louable. John Stuart Mill est invité chez les Taylor. Ça dure à peu près pendant 2 ans. Une période initiale où, on ne sait pas exactement, mais enfin, une période initiale de 2 ans où, en se fréquentant, encore une fois, de manière tout à fait acceptable du point de vue de l'époque, ils vont développer les sentiments l'un pour l'autre et pour arriver en 1833 à peu près, à un moment où ils savent qu'ils s'aiment.
Et donc là, qu'est-ce qui se passe ? Harriet quitte John Taylor pour mettre avec John Stuart Mill ou là aussi c'est un mystère ?
Ah, alors ça, non, on sait ça. Le problème, c'est qu'à l'époque, le danger de quitter, comme vous le disiez, John Taylor pour John Stuart Mill, c'est, c'est la fin de la réputation, c'est l'opprobre social. C'est finalement pas tout à fait possible. Déjà, techniquement, il n'est pas possible de divorcer, sauf à obtenir une autorisation spéciale du Parlement, qui ne serait pas enclin à la donner parce qu'on est amoureux de quelqu'un d'autre. Hein. Il faudrait une raison bien plus forte. D'une part, John Taylor, on le sait, a tenté d'interdire à son épouse de continuer de voir Mail. On sait qu'à l'été 1832, elle dit à John Stuart Mill que son mari ne veut plus qu'elle le fréquente. Alors, ils essaient de ne pas se voir. Ça dure quelques semaines. Et puis, ils craquent. Hein, parce que, il faut dire ça avec des mots.
L'amour est trop fort.
Des mots d'aujourd'hui, mais ils reprennent leur fréquentation assidue. Et là, Taylor, qui semble avoir été un homme bon, un homme que, d'ailleurs, Harriet ne veut pas maltraiter, pour lequel elle continue d'avoir énormément d'estime. D'ailleurs, quand il tombera malade plus tard, Séance Tenante partira le rejoindre pour s'occuper de lui jusqu'à sa mort, lorsqu'il mourra d'un cancer. Mais à ce moment-là, les époux décident de se séparer un moment pour faire le point. Et Harriet part à Paris pour réfléchir. Hein. Et puis, Mail la rejoint au bout d'un mois et il reste 6 semaines avec elle. Puis il repart et Taylor la rejoint. Et Mail attend en gros qu'Harriet quitte son mari. Taylor attend que Harriet revienne à la raison et elle ne fera ni l'un ni l'autre. Elle décidera finalement de s'installer dans une résidence séparée et d'établir ce qu'on peut appeler un modus vivendi tout à fait insolite, puisqu'elle va partager son temps entre la résidence de campagne que le couple louait et le domicile auquel elle se rendra, le domicile conjugal auquel elle se rend de temps en temps. Et Mail passe ses week-ends avec elle à la résidence de campagne. Alors, il faut faire très attention de tous leurs écrits, et il y en a, ils l'ont vraiment signifié à plusieurs reprises, ils jurent leur grand Dieu que la relation est restée platonique. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas allés jusqu'à la consommation charnelle de leur amour.
Ah bon ?
Par respect, oui, c'est vraiment la version officielle. Alors,
Version officielle, donc, voilà.
Oui. Alors, c'est les biographes s'interrogent dessus depuis toujours. On ne sait pas. Mais en tout cas, avec la franchise qu'on connaît à Mail, il a toujours affirmé qu'il n'avait pas franchi ce pas-là par respect pour John Taylor et que ça faisait partie de l'arrangement entre les trois.
En tout cas, très vite, Françoise Orazi se met aussi en place une relation intellectuelle. On va tout de suite écouter un extrait de l'autobiographie de John Stuart Mill, paru en 1873, dans lequel il explique la relation étroite intellectuelle qu'il entretenait avec Harriet Taylor.
Outre l'influence générale de l'esprit d'Harriet Taylor sur le mien, c'est elle qui fut à l'origine des idées et aspects les plus importants de nos collaborations, qui leur ont valu leur succès et réputation. Je me contentais, quant à moi, d'apporter les pensées que j'avais glanées chez d'autres penseurs et faites miennes uniquement dans la mesure où elles avaient pris leur place dans mon système de pensée. Pendant la majeure partie de ma vie d'auteur, j'ai tenu pour elle le rôle dont j'avais très tôt compris qu'il me convenait particulièrement et me permettait d'être utile dans le domaine des idées, celui d'interprète de penseurs originaux et d'intermédiaire entre eux et le public.
Vous aviez raison, Françoise Orazi, John Stuart Mill n'était peut-être pas une malédiction pour Harriet Taylor, puisque dans ce texte, il fait preuve d'une grande humilité et dit qu'il était seulement l'interprète des idées d'Harriet Taylor. Jusqu'où on peut être sûr de cette importance d'Harriet Taylor, c'est-à-dire être sûr que c'était elle la source de toutes ses idées, et on imagine notamment sur le féminisme, mais aussi sur le libéralisme.
Alors ça, c'est une question infinie. Alors, pour la résumer, je pourrais vous dire déjà qu'il n'y a pas de réponse.
Il n'y a pas encore un mystère.
C'est un mystère et il va falloir, je crois, accepter que ça le restera toujours. Par contre, c'est un mystère qui, quand même, s'éclaircit un peu depuis environ 3-4 décennies, et notamment depuis qu'une nouvelle génération de chercheurs s'est mis à remettre en question ce qui a été l'interprétation dominante. L'interprétation dominante, on va dire jusqu'au bas mot dans les années 60, et probablement encore très dominante jusque dans les années 80, c'est que John Stuart Mill était tellement épris d'Harriet que l'amour rend aveugle, qu'il était devenu complètement aveugle à l'insignifiance de sa femme et que toutes ses déclarations en ce sens ne valaient rien. Ça, c'est plus du tout le point de vue aujourd'hui. On sait qu'il y a une influence très forte d'Harriet Taylor Mill et que peut probablement affirmer que John Stuart Mill n'aurait pas pensé comme il a pensé sans sa femme. La question qui demeure, c'est comment cette influence s'exerce-t-elle ? Alors, John Stuart Mill ne découvre pas le féminisme avec Harriet Taylor Mill. Il a déjà donné des signes clairs de féminisme avant de la rencontrer, époque où il est très jeune, vous l'avez rappelé, il est né en 1806, un an avant Harriet. Quand ils se sont rencontrés en 1830, il avait donc 24 ans. Mais déjà avant, il avait deux prises de parti très fortes. D'une part, il avait été arrêté par la police parce qu'il distribuait des tracts pour le contrôle des naissances, pour informer sur la contraception, et notamment sur la contraception dans le mariage. Et d'autre part, parce qu'il s'était opposé à son père, qui lui-même avait écrit un article dans l'Encyclopédie Britannica, où il disait qu'il ne fallait pas donner le droit de vote aux femmes. Et il expliquait pourquoi. Et lui n'était pas d'accord avec son père. Quand on connaît la relation avec son père, pour ne pas être d'accord, il fallait que ça lui tienne à cœur. Néanmoins, en rencontrant Harriet Taylor Mill, ça c'est une certitude, il a mesuré ce qu'est le statut de la femme mariée à l'époque. Il en prend la pleine mesure. Je dirais qu'il est touché dans sa personne par cette prison qui est le mariage pour les femmes de l'époque. Donc ça c'est le premier point. Et puis, leur amour et leur relation est une relation fortement intellectuelle. Avec Mill, il est peu probable qu'il en soit autrement, et Harriet Taylor Mill a une appétence pour les idées, c'est certain. Et ils discutent, ils parlent, ils s'écrivent. Malheureusement, ils ont fait disparaître leur correspondance, probablement pour sauvegarder leur réputation, mais on sait qu'ils parlent beaucoup, 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 et s'ensuit une conversation qui durera jusqu'à la mort d'Harriet Taylor Mill. Et cette conversation, mais c'est le lieu où s'élabore la pensée de Mill. Voilà. Donc, ça, c'est les certitudes qu'on a.
Mais finalement, les textes, enfin, la question, en fait, de l'influence et des textes d'Harriet Taylor, c'est une question véritablement d'actualité féministe. C'est-à-dire, comment mesurer, en fait, l'inspiration ou l'importance intellectuelle d'une femme, quand en fait elle ne pouvait pas signer forcément ses textes, quand elle devait agir dans l'ombre, quand les correspondances ont été perdues. C'est-à-dire que c'est une chose de dire que les femmes ont été invisibilisées ou réduites au silence. Néanmoins, certaines parlaient, certaines écrivaient. Comment en fait, aujourd'hui, quand on travaille sur l'histoire des idées, on peut justement rétablir les faits ou la vérité? Est-ce que c'est possible?
Alors, moi, je pense que ce n'est que possible partiellement. On a des articles aujourd'hui avec les nouveaux moyens, les moyens qui nous sont donnés par les humanités numériques. On a des articles, par exemple, qui reposent sur la stylométrie. On arrive à beaucoup, beaucoup mieux cerner qui est l'auteur. Mais quand on dit qui est l'auteur, on n'arrivera pas à dépasser qui a écrit. Et vous dites que c'est une question féministe. Je vous rejoins tout à fait. Harriet Taylor Mill, c'est la figure symbolique qui vient nous montrer à quel point l'histoire n'a pas pu retenir les femmes. Alors après, ça pose aussi une question peut-être encore plus large, c'est qu'est-ce que ça veut dire être l'auteur ? Est-ce que c'est celui qui tient la plume qui est l'auteur ? Ou est-ce que ce sont les idées qui sont préalables ? Et évidemment, une fois qu'on a dit ça, on est toujours dans son temps. Et c'est peut-être le contexte historique qui peut nous permettre finalement de juger de l'originalité d'une pensée et peut-être de distinguer les auteurs qui vont soit par la qualité de leur argumentation, soit par le caractère nouveau de leurs idées, prendre une place importante dans l'histoire justement des idées, là où d'autres disent des choses finalement qu'on sait. Et c'est ça le travail qu'il faut qu'on fasse, et c'est ça le travail qui est d'une telle ampleur qu'il n'est pas fait et qui nous laisse préférer retenir des grands noms, parce que finalement, ça nous permet de ne pas aller voir dans quelle mesure ces idées étaient déjà là dans le contexte.
France Culture, Avoir raison avec Ariette Taylor-Mill par Géraldine Mosna-Savoie.
Alors comment faites-vous, Françoise Orasi, par exemple, pour quelqu'un comme Ariette Taylor, comment déterminer cette place-là, même s'il y a une part de mystère qui perdure, qui va perdurer de fait en l'absence de sources et d'archives. Mais voilà, là, pour ouvrir cette semaine, toute cette semaine, on va parler d'elle, de ce qu'elle a écrit, de ce qu'elle a pensé, parce qu'il y a quand même quelques documents qui nous sont parvenus et qu'elle a pu signer, ou alors John Stuart Mill a reconnu que c'était elle qui l'avait écrit. Qu'est-ce qu'elle a produit comme idées qui lui sont propres et qui ne soient pas uniquement des choses inspirées du contexte ou retravaillées par Mille.
Pour moi, je crois qu'il faut... moi, je le prends un peu différemment. Et je crois qu'il faut admettre l'importance, le capital de John Stuart Mill. C'est, on le dit souvent, le plus grand philosophe anglais de langue anglaise du 19e siècle. C'est quelqu'un dont la place dans le monde anglophone... et équivalente, supérieure peut-être même la renommée à un Rousseau en France. Et ce philosophe, il est phénoménal parce que à son époque, dans l'histoire de la philosophie, comme l'a très bien montré Suzanne Mollard-Rockin, c'est le seul qui va aller oser affirmer l'égalité intellectuelle des femmes et la nécessité de leur donner les mêmes droits qu'aux hommes. Et à l'époque, les gens le prennent pour un fou. Je veux dire, il est vraiment seul à dire ça, et vraiment tous ses compères, tous ses pairs, tous les gens respectables pensent qu'il a perdu l'esprit, ou alors en tout cas qu'il va trop loin. Et pour moi, reconnaître Ariette Taylor Mill, c'est reconnaître que la personne de Mill, le philosophe Mill, dans Mill, il y a Ariette Taylor Mill. Il n'y a pas la pensée de Mill sans sa rencontre avec Ariette Taylor Mill. Il n'y a pas cette prise de position en faveur, vous l'avez dit, des droits des femmes, mais plus généralement des droits de l'individu, en faveur d'une amélioration sensible de la condition des travailleurs, vers un rapprochement avec le socialisme, l'établissement de quelque chose qu'on pourrait qualifier de libéralisme de gauche. Alors en France, c'est difficile à entendre, mais ça existe, le libéralisme de gauche. Tout ça... c'est la rencontre avec Ariette Taylor Mill et c'est la discussion avec Ariette Taylor Mill qui va. Et puis après, tout le rôle qu'après la mort de Taylor Mill, tout le rôle que va jouer Mill quand il va être élu à la Chambre des communes, qui va déposer des textes de loi pour le droit de vote des femmes, finalement dans l'avancement de la cause, dans le fait que cette cause, elle passe d'un radicalisme marginal, existant, préalable à Mill et Taylor Mill, mais complètement marginalisé pour devenir une cause centrale, le rôle de Mill là-dedans, il est énorme. Et donc, le rôle d'Ariette Taylor Mill.
Donc, c'est presque vain, Françoise Orasi, de vouloir à tout prix, en fait, territorialiser ou distinguer ce qui tient à l'un, ce qui tient à l'autre, c'est ça ?
Sauf si vous avez des micros que vous avez mis chez eux et dont vous avez récupéré les enregistrements, il faut admettre qu'on ne saura pas. Oui. On sait qu'elle l'a influencé, on sait que des textes, ça on le sait avec certitude, que les grands textes Mill, Anne les Petits, les principes d'économie politique et bien sûr l'assujettissement ou l'asservissement des femmes, on sait qu'il y a une influence. On sait qu'elle tient beaucoup au texte « The Enfranchisement of Women », l'affranchissement des femmes.
Qu'Ariette Taylor a écrit elle-même.
Qu'on attribue généralement à Ariette Taylor, mais dont les analystes hylométriques nous indiquent qu'il est plutôt co-écrit. En même temps, et oui, mais en même temps, quand vous avez Mill à côté de vous et que vous devez écrire un article et que vous avez l'un des plus grands écrivains de langue anglaise de son vivant, évidemment qu'il vous relie et qu'il vous aide à reformuler. Surtout à l'époque où il y a une telle différence d'éducation entre les hommes et les femmes. Je veux dire, Voilà, c'est un peu comme si vous écriviez un roman assise à côté de Marguerite Yourcenar. Évidemment, vous lui demanderiez un coup de main, quoi.
J'aimerais, Françoise Orasi, parce qu'on arrive presque au terme de cette émission, citer quand même un texte de Friedrich Hayek qui a écrit à propos de John Stuart Mill, mais aussi de Harriet Taylor. Et il dit ceci, vous le citez hein, dans votre livre, Françoise Orasi, « Si Harriet Taylor était semblable à l'image que Mill voulait en donner, il faudrait la considérer comme l'une des femmes les plus remarquables de tous les temps. Jusqu'à ce jour pourtant, nous ne disposons que du témoignage de Mill pour nous faire une idée. Or, les termes qu'il emploie pour son éloge sont si extraordinaires qu'ils ont, au lieu de convaincre, souvent donné lieu à de l'incrédulité. » Pourquoi je cite ce texte-là? C'est parce que je trouve ça assez fou que même quand Mill, un homme reconnu, même si très radical dans son époque, en s'engageant pour les droits des femmes et l'égalité des sexes, c'est-à-dire que si même un homme dit que sa femme a eu une importance, une influence, était son inspiratrice, même lui, en fait, sa voix est presque raillée ou décrédibilisée. Ça veut dire qu'il y avait quand même une sorte de scepticisme énorme à l'égard du rôle des femmes, même quand les hommes la revendiquaient.
Mais c'est ça, ça a été la pensée dominante, je le disais tout à l'heure, dans les années 60. Il faut d'ailleurs rendre à Hayek que c'est lui qui a déclenché cette nouvelle interprétation du rôle de Harriet Taylor Mill dans la pensée, oui, tout à fait. Mais vous avez tout à fait raison. Et quand on voit l'incrédulité, la raillerie, la moquerie dont vont être victimes les femmes, si elles osent prendre la parole, ou les hommes, s'ils osent donner du crédit à la parole des femmes, dans le cas de Taylor Mill et Mill, ils sont ostracisés à leur époque, socialement en tout cas, notamment à cause de la situation maritale d'Harriet. Mais toujours est-il que quand on voit ça, ce n'est pas surprenant que les femmes ne puissent pas écrire. C'est finalement ça qui est très intéressant, c'est Harriet Taylor Mill. C'est que on n'a pas de raison de douter de son nom d'email, certainement pas, mais à l'époque, l'intelligence, elle est attribuée aux hommes et personne ne tend une oreille pour écouter les femmes, sauf peut-être, c'est vrai, en Angleterre, dans le domaine de la littérature. Mais dans le domaine de la pensée, politique, c'est trop sérieux pour laisser ça aux femmes. Donc, dès lors, on ne donne jamais sa chance. Et Harriet Taylor Mill, si tant est que pour aller dans le sens du titre de votre émission, il faut penser avec elle, c'est penser avec toutes ces personnes dont on n'a jamais donné le moindre crédit à la pensée, justement.
Merci beaucoup, Françoise Orasi, d'avoir ouvert cette semaine. Vous avez raison sur Avoir raison avec Harriet Taylor Mill. Alors de vous, on peut lire L'individu libre, le libéralisme anglo-saxon de John Stuart Mill à nos jours. C'est paru aux éditions Classique Garnier. Et évidemment, il faut lire John Stuart Mill et Harriet Taylor écrit sur l'égalité des sexes que vous avez traduit et présenté aux éditions ENS Collection Les fondamentaux du féminisme. Et un grand merci à Anaïs Isbert pour la préparation de l'émission, à Nicolas Berger pour la réalisation et à Élise Le pour la prise de son. Rendez-vous demain pour la suite de cette série sur Harriet Taylor Mill. Et d'ici là, rendez-vous sur le site de France Culture, à la page de l'émission pour la réécouter.